Le 18h de France Inter est ouvert. Bienvenue et attachez vos ceintures. C'est parti pour un petit tour du monde et de l'Hexagone en 120 minutes. On commence ce 18-20 avec l'actualité de ce mercredi 29 décembre et le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec un raz-de-marée.
Expression employée, oui, ce soir par Olivier Véran pour qualifier la montée des cas de Covid en France. 208 000 contaminations en 24 heures, un record jamais atteint depuis le début de la pandémie. Le ministre de la Santé qui met en garde également les non-vaccinés, très majoritaires en réanimation aujourd'hui, on l'entendra. Des contaminations qui montent en flèche. Pour autant, le variant Omicron serait moins dangereux. Les chiffres anglais l'indiquent de plus en plus clairement. 50 à 70% de moins de cas d'hospitalisation avec ce variant. Nous serons à Londres dans ce journal. À suivre aussi, des députés de la majorité menacés alors que le texte sur le pass vaccinal est présenté aujourd'hui à l'Assemblée. La communauté internationale indignée après la dissolution de l'ONG Mémorial, symbole de la démocratie en Russie. Et puis la première giga-usine de batterie électrique européenne pour concurrencer Tesla et la Chine. Ça se passe en Suède.
Et à 18h15, un jour dans le monde, vous en parliez Sébastien, après la dissolution de l'ONG Mémorial en Russie, que veut Vladimir Poutine? Effacer la mémoire des crimes staliniens, renouer avec une certaine idée de la Russie comme au temps de la guerre froide? Et quelle place pour la diplomatie française dans tout ça? On en parle avec notre invité. À 19h20, au téléphone sonne, va-t-on vers la fin de l'adoption internationale? Le nombre d'enfants adoptés à l'étranger s'effondre en France depuis 20 ans. La pratique interroge les rapports entre pays du Sud et du Nord. Quelles conséquences pour les enfants adoptés qui réclament l'accès à leurs origines? Une adoption internationale éthique est-elle possible? On attend vos questions et témoignages. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
France Inter.
Jamais la France n'avait connu une telle flambée de contamination.
Il ne s'agit plus d'une vague ni d'une lame de fond, mais d'un raz-de-marée de cas de Covid. La phrase est d'Olivier Véran qui s'exprimait cet après-midi devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé qui a fait un point sur les derniers chiffres de l'épidémie. Hier, c'était 180 000 cas et ces dernières 24 heures, donc, ce sont plus de 200 000 personnes qui ont été diagnostiquées positives. On écoute le ministre.
Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Nous n'avons jamais connu une telle situation, il y en a partout. Si j'extrapole un peu, on est probablement à ce soir, en comptant les cas d'aujourd'hui, à 1 million de Français qui doivent être positifs au coronavirus à l'heure à laquelle je vous parle et qui sont diagnostiqués comme tels. Auquel il faut ajouter un certain nombre de personnes asymptomatiques qui ne sont pas testées, donc probablement plus d'un million de Français. Si on considère qu'on a entre 3 et 5 cas contacts par Français, on peut considérer qu'il y a 10% de la population française qui est à l'heure à laquelle je vous parle cas contact. Il y a des risques de recontamination qui sont accrus. Ils touchent toutes les classes d'âge. Il est plus répandu chez les moins de 60 ans, du fait des liens sociaux, mais il touche toutes les catégories d'âge. Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes.
Voilà, Olivier Véran, le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale, qui met aussi en garde donc les non-vaccinés. Selon lui, 70% des patients en réanimation aujourd'hui dans les hôpitaux parisiens ne sont pas vaccinés. Et parmi ceux qui sont en soins intensifs et qui sont vaccinés, 80% d'entre eux sont immunodéprimés. Et puis ajoutons à ce diagnostic alarmant les mots de l'OMS, le monde confronté à un tsunami et des systèmes de santé déjà au bord de l'effondrement. Voilà pour le versant inquiétant de la pandémie. Pour autant, si le variant Omicron est largement plus contagieux que les autres variants, les signes de sa moindre dangerosité se confirment, notamment au Royaume-Uni, l'un des premiers pays frappés par Omicron. Là-bas, il n'y a pas de corrélation directe, mécanique, entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations. Les symptômes également avec Omicron semblent moins virulents, moins d'oxygène nécessaire, par exemple. Les précisions à Londres de Richard Place.
Le gouvernement focalise sur une courbe. Ce n'est pas celle des infections qui crève pourtant tous les plafonds. Non, ce que le gouvernement anglais regarde, c'est l'évolution des hospitalisations. Moins effrayante, elle n'est quand même pas rassurante. Aujourd'hui, un peu moins de 10 000 patients Covid sont soignés dans les hôpitaux, 38% de plus en une semaine. Une augmentation inquiétante, mais encore tolérable pour les personnels de santé. Rien à voir avec les 34 000 cas qui les débordaient mi-janvier au pire de la crise. La progression fulgurante fulgurante d'Omicron touche évidemment des infirmières, des médecins, des brancardiers confinés chez eux. D'où cette idée aujourd'hui de réduire la période de confinement. Actuellement, elle est de 10 jours. Elle peut tomber à 7 après 2 tests négatifs. Certains voudraient la ramener à 5 jours. Boris Johnson continue de miser sur le vaccin. Il l'a redit aujourd'hui, précisant que 90% des patients en soins intensifs en ce moment sont des non-vaccinés. Londres, Richard Place, France Inter.
Face à cette montée des cas, il y a une population peu vaccinée. La Réunion se barricade à nouveau. Retour du couvre-feu. Décision du préfet de Lille aujourd'hui. Interdiction de sortir dehors de 21h à 5h du matin. Et cela à partir de samedi soir, après le réveillon et pour 3 semaines. L'arme principale du gouvernement français face à la pandémie reste à ce stade la vaccination encore et toujours. Avec un degré supplémentaire dans l'incitation, le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal. Un test ne suffira plus pour aller au restaurant, par exemple. Le projet de loi est présenté en ce moment en commission des lois à l'Assemblée nationale pour une discussion lundi prochain dans l'hémicycle, mercredi prochain au Sénat et une entrée en vigueur normalement le 15 janvier. Un pass vaccinal qui provoque déjà de graves crispations sur le terrain. Ainsi, plusieurs députés ont fait l'objet de menaces ces derniers jours s'ils votent pour cette loi. Le garage personnel, par exemple, d'un député d'En Marche a été volontairement incendié la nuit dernière à Chambly dans l'Oise. Un pneu enflammé jeté dans le garage et des inscriptions sur les murs. Votez non, ça va péter. Écoutez la réaction du député en question, Pascal Bois.
Je vous cache pas naturellement qu'il y a un moment de sidération. Un peu d'émoi au départ, mais je reste debout, ça ne me fait pas bouger d'un iota. Moi, je veux bien, dans l'échange, dans le débat, dans la contradiction, il y a des tribunes pour ça, il y a des moyens. Il existe une permanence de députés, si on n'est pas d'accord, on peut venir voir le député. C'est les méfaits qui sont signés par les irréductibles, anti-vax, en anticipant ce que sera le pass vaccinal avec le projet de loi qui passera en séance la semaine prochaine. Ces actes-là sont contre-productifs pour ceux qui, en tout cas, espéreraient y gagner en crédit. Et ces personnes qui agissent de la sorte, de toute façon, rien n'aura grâce à leurs yeux.
Le député de l'Oise, Pascal Bois, avec Kelly Abergel. Au chapitre Covid, encore un rappel avec la fermeture des discothèques prolongée de 3 semaines. Elles ne rouvriront pas avant le 24 janvier prochain. Et puis les examens universitaires, eux, auront bien lieu en présentiel à partir de lundi. Annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur ce matin. Pas question pour le moment de basculer en distanciel. Alors comment va se passer cette rentrée universitaire? Élément de réponse avec Noémie Bonin.
Pas de report d'examen, pas de jauge particulière. Les principales universités ne changent pour l'instant rien. Mais certains étudiants sont inquiets. Comment faire s'ils attrapent le Covid juste avant les partiels? Attendre la session de rattrapage en juin prochain les pénaliserait pour la suite de leur cursus. Guillaume Gelet est le vice-président de la CPU, la conférence des présidents d'université.
Si vous avez effectivement le Covid et que vous avez donc un test positif, il faut déjà dans un premier temps le signaler. Donc à la cellule qui est dédiée à ça dans votre établissement, et c'est nécessaire pour une prise en charge par l'établissement de votre situation. Et donc, vous allez être bien sûr soumis à l'isolement, vous serez empêché de passer cette session d'examen, et vous aurez une session de substitution.
Ces fameuses sessions de substitution, ça peut être un examen décalé 2-3 semaines plus tard. L'université de Strasbourg, par exemple, a prévu des créneaux supplémentaires le samedi pour les étudiants qui seraient malades le jour J. Côté cours, c'est pareil, pas de projet de basculer des enseignements supplémentaires à distance. Seule exception, le site d'Aix-Marseille. Les 15 premiers jours de janvier, les étudiants devront suivre les cours magistraux et les travaux dirigés chez eux. Objectif, libérer assez de salles pour les examens.
Noémie Bonin.
En Russie, c'est un nouveau clou planté dans le cercueil de l'ONG Mémorial.
L'ONG mondialement reconnue pour son travail sur les crimes du stalinisme a été dissoute, on le sait, hier par la Cour suprême de Moscou. Aujourd'hui, c'est au tour d'une autre branche de l'ONG, dissolution du Centre des droits humains qui, lui, se concentrait sur les violences commises sous le régime de Poutine, accusé de faire l'apologie du terrorisme et de l'extrémisme. Le Kremlin qui franchit un nouveau palier dans sa lutte contre les voix dissidentes en Russie, décision qui a provoqué l'indignation de toute la communauté internationale depuis hier. Christian Chéneau.
Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, n'a pas mâché ses mots. Pour lui, la dissolution de Mémorial qu'il qualifie de persécution est un affront aux droits humains. Londres voit dans cette décision de la justice russe un coup effrayant porté à la liberté d'expression. Mémorial a travaillé sans relâche pendant des décennies pour assurer que les violations des droits de l'homme sous l'ère soviétique ne soient jamais oubliées, rappelle la chef de la diplomatie britannique Liz Truss. Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay, évoque de son côté une terrible perte pour le peuple russe. Cette annonce, ajoute-t-il, est profondément inquiétante pour l'avenir de la recherche historique et de la défense des droits de l'homme en Russie. Un porte-parole des Nations Unies estime que la dissolution de Mémorial affaiblit la communauté des défenseurs des droits humains dans le pays. Communauté déjà en déclin, regrette l'ONU.
Christian Chesneau, ajoutons que la Cour européenne des droits de l'homme demande à Moscou ce soir de suspendre la décision de dissoudre Mémorial. On y revient dans un jour dans le monde, juste après ce journal. À noter aussi la fermeture à Hong Kong du média en ligne pro-démocratie Stand News, avec une perquisition ce matin de plus de 200 policiers et l'arrestation de 7 personnes pour publication séditieuse. Quand l'Europe travaille à devenir plus autonome, une giga-usine de batteries électriques, 100% européenne donc, a sorti sa première batterie aujourd'hui, cette Gigafactory, sur le modèle de Tesla, a vu le jour dans le nord de la Suède. Elle s'appelle Northvolt. Mais le chemin sera encore très long avant de rattraper le retard face aux mastodontes américains et chinois. Marie-Pierre Véraud.
Première en Europe qui a une marge de progression. Elle occupe actuellement quelques 3% du marché très prometteur de la batterie électrique et aspire, grâce à de tels projets, à passer à 25% d'ici à 2030. L'usine du groupe Northvolt est située dans le nord de la Suède, à 200 km à peine du cercle arctique. Une méga-usine ou giga-factory, selon le concept cher à Elon Musk, qui entend justement faire pièce à la concurrence asiatique et américaine. Elle a assemblé sa première cellule de batterie électrique la nuit dernière, la première à la fois conçue, développée et assemblée entièrement en Europe. À terme, le site devrait pouvoir équiper 1 million de véhicules chaque année. Une alimentation en énergie en 100% renouvelable grâce à l'hydroélectricité, une usine qui va aussi produire des batteries à partir d'au moins 50% de matériaux recyclés. Nickel, manganèse ou cobalt seront récupérés sur des batteries usagées. C'est mieux pour l'environnement, mais aussi pour une autonomie véritablement stratégique, alors que nous parlons là de matériaux relativement rares.
Marie-Pierre Véraud.
Et on termine, Sébastien, avec une incroyable histoire de Paris, vieille de plus d'un siècle.
C'est une histoire extraordinaire, en effet, qui vient d'être mise à jour à Bassan, au nord de Béziers. Un couple de retraités biterrois a retrouvé dans son grenier un étrange bout de papier. C'est en réalité un pari qu'ont fait deux adolescents en janvier 1917, un pari sur la fin de la Première Guerre mondiale. Le perdant s'engageait à verser 20 anciens francs si le conflit armé ne se terminait pas 2 mois plus tard. Pari bien évidemment perdu. Le reportage de Stéphane Pochet.
Le document recouvert d'une épaisse poussière accumulée avec le temps était à même le sol caché derrière des tuiles.
C'est en allant chercher les décorations de Noël que mon épouse a balayé un peu le faisceau lumineux de ce projecteur qui éclaire ce grenier comme en plein jour. Mon épouse a pris ça pour un bout de carton, donc on a déchiffré.
Installé ici depuis 21 ans, le couple n'avait jamais prêté attention à ce bout de papier.
Moi, qu'est-ce qui m'a touché, c'est le mot, je sous-signais le sieur. Je me suis dit, sieur, c'est vraiment un truc ancien.
Le document écrit à l'encre de Chine aurait pu terminer la poubelle. Mais le couple décide de retrouver les familles.
Nos voisins connaissaient bien le premier propriétaire qui était aussi passionné par surtout la Première Guerre mondiale.
Ce dernier, aujourd'hui décédé, côtoyait professionnellement la famille de l'un d'entre eux.
L'aurait-il récupéré lors d'un déménagement ou autre ? Il était conservateur.
Et grâce à un article dans la presse locale, la petite fille de l'un des parieurs se manifeste.
Ça nous touche. Je vais essayer de trouver et de voir s'il y a eu autre chose après aussi, peut-être. Une petite histoire.
Léonce, qui avait 16 ans à l'époque, n'avait pas ébruité ce pari. Pari gagné, mais a-t-il seulement empoché les 20 francs de l'époque ? La famille s'interroge.
À creuser, voilà.
Ce bout de papier d'une valeur inestimable a été précieusement encadré en attendant d'être remis prochainement en main propre aux descendants des deux parieurs.
Voilà, Stéphane Pocher de France Bleu Héros. Elle a beaucoup photographié le Paris de l'après-guerre des années 50. La photographe Sabine Weiss a disparu hier à l'âge de 97 ans. Elle déplorait sur la fin que les gens passent plus de temps à faire des selfies qu'à des selfies qu'à regarder les autres. Corinne, photographiez les gens, les choses autour de vous, disait-elle, à méditer.
Et voilà, je viens de vous prendre en photo, Sébastien. Vous êtes très beau. Merci, Sébastien Le Génie. On vous retrouve tout à l'heure dans un jour dans le monde. Avec le masque, on ne sait rien. On vous retrouve donc tout à l'heure. Et avec notre invité, on va parler Russie et diplomatie. Après la dissolution de l'ONG Mémorial, que cherche Vladimir Poutine en effaçant la mémoire des crimes de la Russie? Le monde va-t-il redevenir bipolaire entre Est et Ouest? Et quelle place pour la diplomatie française dans tout ça, alors que la France va prendre la présidence de l'Union européenne? En deuxième heure, au téléphone sonne. L'adoption internationale en question. Partout dans le monde, des collectifs d'enfants adoptés devenus grands demandent des comptes. Ils veulent avoir accès à leurs origines, connaître les conditions parfois illégales de leur adoption. En France, le nombre d'enfants adoptés à l'étranger s'est effondré. Peut-on réinventer une adoption internationale éthique et responsable dans l'intérêt de l'enfant? On attend vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Mais d'abord, des nouvelles du ciel.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Vigilance orange sur 5 départements.
Oui, c'était prévu et attendu avec les pluies qui tombent depuis quelques jours. Les cours d'eau ont fortement réagi. Les services de Vigicru ont donc placé l'Ain et le Puy-de-Dôme en vigilance orange. L'Ain qui reste en vigilance orange aux fortes pluies jusqu'à demain matin. Tout comme la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Et puis la pluie apparaît de plus en plus haut en montagne sur les Alpes du Nord. La limite pluie-neige va d'ailleurs continuer de monter cette nuit. Il pourra même pleuvoir jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ces pluies vont rendre le manteau neigeux plus lourd, ce qui favorise les départs d'avalanche. Le risque d'avalanche va d'ailleurs rester fort de 4 sur 5 au moins jusqu'à demain.
Et ça continue encore de la douceur exceptionnelle pour demain.
Oui, des records ont déjà été battus aujourd'hui, notamment sur le Languedoc, en particulier du côté de Nîmes. Et ce fameux pic de douceur va durer encore jusqu'à demain. D'autres records risquent donc d'être établis. Les maximales resteront comprises entre 13 et 20 degrés demain après-midi, avec 17 à 23, 24 degrés sur le Languedoc-Roussillon et sur l'ouest des Pyrénées. Côté ciel, on se dirige tout de même vers un temps plus calme. Alors on aura encore un peu de pluie demain sur le quart nord reste le matin, le long des frontières nord à l'après-midi, mais le soleil va s'imposer dès le lever du jour autour de la Méditerranée, le long des Pyrénées et de la côte aquitaine, alors qu'ailleurs la matinée sera plutôt grise avec des brouillards. L'après-midi, le soleil va se propager sur un large quart sud-ouest, les belles éclaircies reviendront aussi entre les pays de la Loire, le Massif central et les Alpes du Nord. En revanche, la couche nuageuse restera imposante de la Bretagne et de la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux frontières du nord et du nord-est.
Merci Sébastien Léas de Météo France, on vous retrouve après le journal de 19h.